Cavaliers select LeBron James.
Mark Aguirre.
Markel Fultz.
Team Olajuwon.
James Worthy.
Elena, puis-je te poser une question à caractère un petit peu personnel et intime?
Quoi?
Quand tu connectes un disque dur externe via un port Firewire, est-ce que tu rebootes en mode sans échec?
Attends, j'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là.
Pardon.
Salut à toutes et à tous, c'est Yoz. Et aujourd'hui, et comme toujours, je suis avec Jasper. Salut mon pote, comment ça va?
Salut, ça va et toi?
Bah écoute, ça va impec, déjà le quatrième épisode des Nerdies, quatrième jour, on tient le rythme pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, parce qu'on va parler de Judah Mintz qui est un joueur qui fait parler, et surtout chez nous, c'est un joueur qui déjà l'année dernière était plutôt haut chez nous, et on n'arrive pas à s'en séparer.
On n'a pas envie de le sortir de notre board, quoi.
Je te jure, on n'a pas envie de le sortir de notre board, mais enfin bref, on va en parler. Judah Mintz de Syracuse, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Yes, du coup, c'est une recrue 5 étoiles, 4 étoiles, si je me rappelle bien. Donc, énorme recrue du côté de Syracuse. C'est un 6'3, donc ça doit être 1m92, 93, 75 kilos. Donc assez fin quand même, c'est un poste 1-2 américain, pardon, et du coup il a 20,8 années. Donc il aura peut-être 21 ans du coup.
Ouais, enfin en tout cas, premier match en NBA, il aura 21 ans pour sûr quoi.
C'est sa deuxième saison du coup, du côté de Syracuse. Cette saison, c'est 18 points de moyenne pour 3,2 rebonds, 76% lancé franc. 32% à 3 points, 28% pardon à 3 points, et les passes, on était à 4,4 cette saison.
Eh ben écoute, c'est intéressant. C'est intéressant, Judah Mintz qui nous a offert une belle saison, une très belle saison, avec une belle équipe de Syracuse, donc que moi j'ai apprécié regarder en tout cas, sur un beau backcourt avec Gigi Starling. Qu'est-ce que tu dirais un peu du profil du joueur, surtout offensivement?
Bah, Kevin O'Connor l'a comparé avec un baby Jamorant, donc bah c'est Jamorant, voilà. Dans le jeu, c'est un énorme slasher. C'est un mec qui va très souvent sur la ligne lancer franc. Il a un package layup phénoménal. Il a un toucher près du cercle, j'ai rarement vu ça. Il est hyper bon pour finir au contact, sans contact, dans des positions bizarres. Il peut mettre des posters. On est vraiment sur un énorme slasher. Un playmaker de plus en plus à l'aise avec le ballon. Par contre, on a toujours des problèmes de shoot. Je pense que tu vas en parler.
J'en parlerai après. Alors, on est vraiment sur un baby Jamorant, hein, désolé. Oui. J'aime beaucoup Kevin O'Connor, mais bon.
Je crois qu'on a vu ça, il l'a mis genre en 70. Donc Jamorant en 70, tout va bien.
Jamorant en 70, tout va bien. Non, ouais, comme tu dis, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette finition au cercle. On est sur un joueur qui est à 56%, 56% au cercle. Et comme tu dis, quand on voit parfois les lay-ups qu'il prend, c'est quand même un exploit d'être à 56% au cercle. Moi, ce que j'aime beaucoup offensivement sur Judah Mintz, c'est qu'il n'a pas ce côté... à contrario de Jamorant, hein, c'est pour ça que je comprends pas trop la comparo, il a pas ce côté très élite en fait, athlétiquement parlant. Mais par contre, on est sur un joueur qui est archi skillé, vraiment archi skillé. Et je trouve que c'est sur ces changements de rythme en fait, c'est où il arrive en fait à créer vraiment des écarts assez dingues parfois. Et il a ce côté un petit peu, tu vois, un peu plus comme D'Angelo Russell, un peu crafty, donc on sait que on sait pas trop ce qu'il fait, mais ça marche, c'est plutôt sympa, c'est très beau avoir joué du Judah Mintz. Ouais, en revanche,
un,
voilà.
Un plus explosif quand même que D'Angelo Russell, c'est un peu plus... Ouais. T'as aussi l'impression que des fois que c'est un peu tunnel vision, et que quand il va aller au layup, il va y aller, quitte à se faire contrer, ou quoi, mais s'il veut y aller, il peut y aller, quoi. Il a les capacités pour...
Bah écoute, je reviendrai sur le côté tunnel vision un petit peu après. Judah Mintz, défensivement, qu'est-ce que ça vaut?
Bah c'est mieux en mieux. Il arrive en plus comme une sorte de un peu spécialiste défensif quand il arrive à Syracuse. Syracuse qui, on rappelle en plus, a changé de coach quand il arrive. Ce n'est plus Jim Boeheim, donc on n'est plus sur la zone. Donc cette saison, il a au rebond. Il était à deux rebonds la dernière, là il a presque trois rebonds. Pareil pour les styles, pardon. Il est à 1,8 la dernière, 2,1. Il est beaucoup mieux, c'est quand même un très bon défenseur au périmètre. Il a un peu plus de mal off-ball, dans le sens à suivre son joueur, le tracking, tout ça. Mais quand il défend sur les joueurs on-ball, c'est plutôt efficace. Il est assez rapide, assez mobile, notamment en termes de mobilité latérale. Donc c'est un bon défenseur NCAA, donc ça doit être un défenseur à peu près correct. Mid défenseur en NBA, je pense.
Moi, je trouve que c'est même un très bon défenseur NCAA parce que il a très peu de défauts. Alors si, évidemment, quand il se fait post-up, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est entre guillemets un peu normal pour un guard, mais c'est surtout en isolation, je trouve qu'il défend très très bien. Il arrive à rester devant son joueur et quand il arrive pas à rester devant son joueur, il le lâche pas, il le dérange. Et ça, je trouve que c'est en fait, je reviens sur ce côté un peu changement de rythme. Il utilise très bien ses hanches et ses jambes pour suivre ses défenseurs, et je trouve que ça, c'est très très intéressant chez Jude Amiens défensivement.
Ouais, juste un petit peu fin des fois pour les écrans, c'est là où on peut lui poser un peu problème. Ouais, en NBA, quand il y a des joueurs un peu plus larges, il faudra prendre des épaules en NBA.
C'est vrai, tout à fait. Et du coup. Je parlais de sa capacité à défendre les isolations. Je vais vous dire ma stat un petit peu. Voilà, vous savez que dans chaque épisode, chaque jour, on vous sort une petite stat sur un joueur. Moi, cette fois, ça concerne les isolations, mais offensives. Offensives, il faut savoir que...
J'étais mort de rire. Hein, donc...
j'étais mort de rire. Quand j'ai découvert ça, j'étais mort de rire. Jude Amiens tourne à 15% au tir. En isolation. Concrètement, il ne sait pas attaquer une isolation. Je sais pas, je sais pas d'où ça sort, mais si, je sais très bien d'où ça sort. Tu l'as très bien dit, c'est ce côté hier en fait qu'il peut avoir à certains moments. C'est que, en fait, il lui manque parfois une capacité d'adaptation sur sa manière d'attaquer ses iso. Ou en fait, il part déjà du truc, il se dit bah vas-y, je vais drive côté gauche. Il drive côté gauche quoi qu'il arrive. Si la défense s'ajuste et se met en place, il n'arrive pas à aller au-delà de ça et à improviser.
Ouais, dans sa lecture, il est quand même très têtu, un peu borné.
Archi têtu.
C'est ça. Il n'a pas ce côté lecture avancée d'adaptation, quoi.
C'est ça. Ce qui fait qu'on
peut lui poser beaucoup de problèmes en NBA.
Exactement, ce qui fait qu'on est sur un joueur qui shoot à 15% en isolation, ce qui est ridicule, les amis, vraiment ridicule. Hein. Je te laisse sur ta stat à toi.
Merde, j'ai perdu. Ah, si. C'est qu'il tourne. C'est le leader de sa conférence. Donc, on parle d'un meneur. Hein, qui tourne presque à 6,5 lancers francs par match. Ce qui est énorme. En plus, comme il n'est pas forcément mauvais en lancers francs. 76%, c'est plutôt bon. Mais même dans les free throw attempts, 8 par match, c'est ridicule. C'est parce que c'est un joueur qui a aucun problème à aller au contact. Et c'est un joueur qui attire énormément de fautes. C'est aussi peut-être son problème, c'est que ça marche beaucoup au NCAA, ce genre de joueur. Hashtag D'Aaron Cibron. Mais que c'est difficile à reproduire en NBA, parce qu'en NBA, les joueurs sont plus athlétiques, plus longs, plus grands. Même si le terrain est plus large, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est très bon au layup, et quand il arrive au cercle, si c'est pas un N1, c'est juste une faute. Donc on est sur un énorme... une rim pressure qui est assez énorme.
Et ça rejoint en fait sa capacité à absorber le contact aussi.
Ouais.
Il absorbe très très bien le contact.
En fait, il peut finir dans n'importe quelle situation, que ce soit en contorsionnant un petit peu son corps, en faisant un runner, en allant totalement tout droit avec le contact, parce qu'il athlétiquement, il est pas mauvais, il a un bon hang time. Donc c'est un super finisseur. Après, est-ce que ça en fait un joueur NBA ? Un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué, mais comme t'as dit, en tout cas, ce côté un petit peu free throw merchant, c'est assez impressionnant chez lui.
De l'accent.
Merci, je me suis entraîné en off. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a été archi complet sur le profil, non ?
Ouais.
T'as, en plus,
C'est
t'as, j'ai bien...
un joueur qui
Ouais.
peut se trouver, je pense, un rôle NBA de par sa défense. Je
Voilà.
pense pas que le shoot soit. J'ai un peu du mal à l'acheter. Je pense qu'au niveau du playmaking, il fait quand même des progrès cette saison. Il a un peu plus lâché la balle que l'année dernière. Le backcourt avec Jay Starling fonctionnait bien, comme tu l'as dit. Enfin, plutôt bien. Mais si il devient vraiment un bon petit défenseur, peut-être un joueur intéressant de banc, de fond de banc en NBA.
Ouais, c'est ça. Après, je pense, pour en revenir à son shoot rapidement, il est un peu victime de son rôle. Hein. Il est un peu victime de son rôle, un petit peu j'allais dire le franchise player de Syracuse, mais oui, c'est à peu près ça,
Ça.
quoi.
Oui, c'est voir aussi comment NBA va pouvoir jouer son ballon, quoi.
C'est
À chaque
ça.
fois sur les kills.
Et moi, j'aurais plus de confiance sur son shoot à ce moment-là, tu vois. Parce que j'ai pas la si. Hop, j'ai la stat sous les yeux, pardon, c'est déjà mieux. En catch and shoot à 3 points, on est sur 36%, ce qui est archi correct. Sachant que c'est pas un mec qui va vraiment énormément tenir la balle en NBA, je pense. Bien que ses capacités de playmaker vont aider sûrement le banc dans lequel il se retrouvera, mais il va devoir un petit peu lâcher la balle et on voit qu'en catch and shoot, il est plutôt pas mal. Sachant que unguarded, il est même à 43%.
Ouais,
Donc
après le volume est faible, quoi. Donc pour l'instant on n'a pas d'échantillon
le volume est
sûr
faible.
pour dire il va devenir un joueur off-ball intéressant en NBA, quoi.
C'est ça. Du coup, au niveau de sa projection, où est-ce que tu le places, toi, ce petit Jude Amint?
C'est un joueur que j'ai souvent eu en 30-40, mais honnêtement quand on regarde les mocks, c'est plus entre 40 et 60. On est sur un joueur de second tour, je pense.
On est sur un très bon joueur de second tour, ouais, je suis d'accord avec toi.
Et au niveau de
Et
l'équipe,
ouais,
je
au niveau de
devance un
l'équipe,
peu.
je t'écoute, vas-y, vas-y, vole l'équipe que je veux, vas-y.
Et ben moi, je vais dire Miami.
Ok, non, c'est bon.
Parce que je pense que si Joamit peut devenir un joueur avec une longue carrière, ce sera en commençant par Miami, en fait, où Spoelstra va le rendre utile de par sa défense et par son côté à attaquer le cercle. Pas forcément
Intéressant.
le shoot pour l'instant, mais c'est que Miami, même un petit peu ce genre de joueur. Bon, après, t'as toujours le cliché de Miami qui sort des joueurs un peu inconnus. Pour le coup, Jaden Ivey, ce n'est pas un joueur inconnu parce que c'est une grosse recrue. Mais je pense que il peut apporter aussi un peu de folie à Miami qui manque un peu de ça. Et en plus, c'est un joueur, je pense, qui peut correspondre un peu à Spoelstra.
Intéressant, j'aime beaucoup Miami. J'aime beaucoup Miami pour Jude Amint. L'année dernière, moi, je l'aurais bien vu aux Lakers. Je le voulais d'ailleurs aux Lakers. Là, cette année, j'ai vu là en 45, pourquoi pas les Kings.
Pas.
Je trouve que honnêtement, sur le banc des Kings, t'as besoin. Alors besoin, je ne sais pas, parce qu'on est quand même sur une équipe qui tourne très très bien. Mais
Bah,
ce
Malik
genre
Monk,
de.
je crois qu'il est en fin de contrat, donc il va falloir mettre les pépettes si tu veux le signer. Hein.
Ouais, et puis même, t'as vu, on n'est pas du tout sur le même profil. Malik Monk, c'est un peu ton scoreur. Là, moi, je vois bien un peu le mec qui tient un peu la balle, qui va se mettre dans le corner, qui va laisser un peu les joueurs du banc jouer, tu vois. Et chez les Kings, t'as ce côté en plus un petit peu, pour le coup, plus Baby De'Aaron Fox que Baby Jamorant. Et ouais, moi j'achète pas mal aux Kings parce que je trouve qu'il peut apporter défensivement. Je vois pas d'énormes différences entre alors si au shoot évidemment hein, entre lui et Davion Mitchell. Je pense que les deux peuvent avoir un rôle en fait sur le banc des Kings l'année prochaine.
Juste disclaimer, attention, on peut être aussi là sur un joueur excellent en G League. C'est-à-dire, tu vois un peu Alonzo Williams, qui est en train de se faire une carrière comme un super joueur de G League. J'ai peur qu'avec Jude Amint, on a un peu ce profil de joueur trop bon en G League, pas assez bon pour la NBA.
Carrément. Carrément, carrément. Bah écoute, je crois que ce quatrième épisode des Nerdies touche à sa fin déjà. En la personne de Jude Amint, on a été archi concis. Ça se voit qu'on s'améliore d'épisode en épisode. J'espère que vous appréciez, chers auditeurs. On vous aime fort. Mais voilà, le quatrième épisode des Nerdies se termine sur Jude Amint. Et puis bah, je pense qu'on peut vous dire à demain tranquillement.